Europe 1.
Bienvenue au cœur de l'histoire, je suis Virginie Giraud. Aujourd'hui, dans les interviews du vendredi, je reçois Stéphane Genet, historien, professeur d'histoire et spécialiste de l'histoire de l'espionnage et des relations internationales au XVIIIe siècle. Bonjour Stéphane Genet.
Bonjour.
Le 2 février dernier, le ministère de la Défense américain a annoncé la présence d'un ballon espion chinois volant à haute altitude depuis plusieurs jours au-dessus de l'Amérique du Nord et de sites militaires sensibles. Si Pékin réfute toute accusation d'espionnage et affirme que l'appareil civil a des visées météorologiques, ce ballon ravive l'histoire de l'espionnage aérien, une histoire qui a déjà plus de 3 siècles. Alors commençons, Stéphane Genet, par un petit point de vocabulaire, si vous voulez bien. Est-ce que vous pouvez nous définir ce qu'est l'espionnage et nous dire si ce concept a évolué au fil des siècles ?
Alors, littéralement, l'espionnage, c'est l'action de recueillir clandestinement des renseignements au profit d'une puissance étrangère. C'est aussi vieux que les sociétés humaines, il a toujours existé. D'ailleurs, il y a un historien italien, Paolo Preto, qui disait que c'était le deuxième plus vieux métier du monde, avec moins de principes moraux que le premier. En fait, l'espionnage, là où ça change, c'est quand on va mettre en place des structures et des règles diplomatiques. Alors, ça se passe à l'époque moderne, et c'est un moment où les relations entre les puissances se normalisent et des nombreuses actions de renseignement ou de collecte d'informations vont être codifiées comme étant acceptables et même normales dans le cadre de ces relations diplomatiques. Et donc l'espionnage va définir tout ce qu'elles ne permettent pas, quoi. C'est ce que disait Casanova, il disait « les seuls espions avoués sont les ambassadeurs ». Et donc forcément, quand on n'est pas dans la logique de l'ambassade ou de la diplomatie, on rentre dans celle de l'espionnage.
Alors, en temps et puis il y a une porosité entre les deux.
Oui, absolument. C'est difficile de définir d'ailleurs les limites de l'un et les limites de l'autre.
Alors, est-ce qu'il y a une différence entre l'espionnage en temps de paix et l'espionnage en temps de guerre ?
Oui, alors le cas le plus simple, c'est en temps de guerre. L'espion, c'est un acteur de la puissance ennemie, donc on va se servir de lui comme une monnaie d'échange ou comme un instrument de pression. Le plus souvent, il est puni pour son acte avec un procès préalable ou pas. Au XVIIIe siècle, par exemple, on va pendre l'espion qu'on a attrapé à l'entrée des camps pour que ça serve d'exemple aux autres. Mais en temps de paix, c'est un peu plus compliqué. En fait, si on regarde l'article 29 des conventions de La Haye, alors c'est des conventions en 1907 qui fixent les lois de la guerre. L'espionnage n'est pas une violation du droit international. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'espionnage donne souvent des maux de tête aux juristes parce que c'est très sensible et c'est un phénomène extra-légal. Donc c'est difficile à définir. Généralement, donc en fait, les conséquences d'un espionnage en temps de paix, celui qui est découvert, hein, bien sûr, sont plutôt des conséquences diplomatiques. Donc ça va entraîner un refroidissement des relations entre les pays. Mais la plupart du temps, en fait, ces affaires ne ressortent pas, elles sont peu diffusées, elles sont pas médiatisées. Il n'y a aucun pays, en fait, qui a intérêt à ce que ça se sache. Celui qui a envoyé l'espion, ça apparaît comme une démarche hostile, qui rate en plus, si ça se sait. Et celui qui l'a attrapé, il comprend qu'il est une cible. Donc, en fait, aucun des deux ne souhaite communiquer autour de ça. Et donc, c'est assez rare que ça aboutisse sur un contentieux entre pays, et surtout un contentieux qui soit affiché publiquement, comme ça a pu être le cas récemment entre les États-Unis et la Chine.
Donc là, au moment où on se parle, il y a des espions un peu partout dans le monde qui agissent pour différents pays et on n'est pas au courant et tout est normal.
Oui, absolument. Et tout le monde le sait. Hein. C'est une pratique normale et habituelle. Tout le monde le sait. Tous les dirigeants de tous les pays le savent. Et ça fait partie des pratiques habituelles.
Alors, quand on parle d'espionnage, on pense aussi beaucoup à la guerre froide. Du moins, c'est à ça qu'on pense en premier quand on pense à ce qu'on voit au cinéma et à cette période si particulière. Mais Stéphane Genet, quand est-ce qu'un ballon espion a été vu dans le ciel pour la première fois ? C'était à cette période ?
Pas du tout. En fait, c'est au XVIIIe siècle, justement, et c'est l'invention de la montgolfière par les frères Montgolfier. Et 11 ans plus tard, on a en 1794 la première utilisation d'un ballon espion lors de la bataille de Fleurus. Alors, c'est un ballon statique qui s'appelle l'Entreprenant et qui sert à observer depuis le ciel le mouvement de l'armée autrichienne. Alors, faut imaginer des aérostiers qui sont à bord, hein, qui prennent des notes, qui font des schémas et les laissent tomber au sol pour transmettre les renseignements. Par la suite, on va avoir d'autres ballons espions du même genre lors de la guerre de sécession aux États-Unis. Alors, c'est soit des ballons captifs. Alors, eux, ils sont reliés. On sent que la technique s'est améliorée parce qu'ils sont reliés par des câbles télégraphiques. Et d'autres en vol libre hein, pour des missions de reconnaissance. On en retrouve encore en 1870, lors de la guerre de 1870, où les Français vont utiliser des ballons pour observer les troupes prussiennes. Les ballons servent aussi à transporter du courrier, même à l'occasion un ministre, hein, comme Léon Gambetta, qui va quitter Paris pour rejoindre Tours et lever une armée contre l'envahisseur.
Mais oui. Stéphane Genet, quand on survole un champ de bataille en montgolfière ou en ballon captif, ben c'est hyper voyant.
Oui, absolument. Mais c'est en fait c'est la force des ballons espions, c'est leur altitude qui fait que en fait ils sont peu vulnérables aux tirs du sol.
D'accord. Donc c'est juste la distance qui les protège, mais tout le monde les voit et il y a rien à faire en gros.
Oui. Alors il y a aussi le fait que la plupart des ballons sont aussi situés, surtout pour les ballons statiques, sont situés à une distance suffisante pour éviter évidemment une interception ou une destruction par l'ennemi.
Et à partir de la Seconde Guerre mondiale, la communauté internationale se tourne vers de toutes nouvelles techniques auxquelles le renseignement va avoir recours. Et là, on passe à un espionnage aérien un petit peu plus pointu. Alors, c'est quoi les nouvelles méthodes qu'on découvre à ce moment-là ?
Oui, c'est lié au développement de l'aviation, en fait, hein, et au progrès technique de l'aviation, puisque désormais, on va avoir des avions qui vont voler à des altitudes plus élevées, qui vont pouvoir embarquer aussi des appareils plus performants. Par exemple, en 1951, il y a la caméra Boston sur un avion américain et c'est le plus gros appareil photo jamais construit. Il fait 3 tonnes quand même et il peut photographier jusqu'à 80 km à l'intérieur des terres. Et on disait qu'il avait une telle précision qu'il pouvait voir un objet de la taille d'une balle de golf. Donc on a des moyens techniques qui deviennent considérables et qui d'ailleurs permettent de ne même pas franchir les frontières ennemies. En fait, en longeant les frontières, on peut, grâce à la précision des appareils photo, pouvoir capturer une large bande frontalière et voir tout ce qui s'y passe en fait.
Et puis pendant la guerre froide, les Américains vont lancer de vastes campagnes de renseignement et il y a un projet qui s'appelle le projet Moby Dick. Vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit ?
Oui, alors c'est le retour des ballons, puisque c'est une grande opération de reconnaissance américaine qui va utiliser justement des ballons qu'on envoie dans l'atmosphère pour prendre des photos du territoire soviétique. Alors les ballons sont censés soit rester dans l'atmosphère, soit tomber en mer du Japon, et dans ces cas on récupère, hein, les Américains, la marine américaine vient les chercher. Alors l'opération était censée rester secrète, mais les soviétiques en fait vont mettre la main sur les restes d'une caméra américaine et ils vont comprendre ce qu'il en est. Mais il y en a d'autres, hein, opérations de ce type. En 56 par exemple, il y a le projet Genetrix. C'est le même principe, au-dessus de l'URSS, de l'Europe de l'Est et de la Chine communiste. Et l'avantage, c'est que là, les ballons volent très très haut. Il faut comprendre qu'ils sont entre 15 et 30 km de hauteur. C'est bien au-delà de l'altitude habituelle des avions de chasse, en fait, qui ne peuvent pas les abattre. Le problème, c'est que comme souvent, c'est découvert, parce qu'il y a des ballons qui s'abîment, et évidemment, dès qu'on le découvre, ça entraîne des protestations des pays qui ont été visés. En fait.
Parce qu'on passe sur leur zone d'aviation et on n'est pas censé franchir leurs limites, leurs frontières avec un ballon.
Surtout pour observer ce qui se passe chez eux.
Et pendant cette période, pendant la guerre froide, les ballons espions deviennent un peu obsolètes à côté d'autres technologies. Par quoi on va remplacer les ballons dans les années 60, 70, 80 ?
Eh bien, encore par l'avion, mais des avions, de nouveaux types d'avions, notamment les avions espions. C'est le Lockheed U-2, le fameux U-2, qui passe sous les radars, là encore pour des questions d'altitude. Hein. Il vole à 70 000 pieds, c'est-à-dire 21 300 mètres. C'est deux fois plus haut que les avions de ligne, donc il est vraiment très très haut. Et cet avion va prendre toute une série de clichés. Il faut quand même imaginer qu'on a 23 opérations entre 56 et 1960. Et 1960, il y a un avion U-2 qui a abattu par les soviétiques. Ils sont obligés d'utiliser des missiles sol-air pour l'abattre. Ça va montrer au monde entier ce nouveau type d'espionnage et ce nouveau type d'avion et la capacité que peuvent avoir ces avions dans, en termes de reconnaissance.
Et comme vous aviez commencé à le souligner, l'espionnage aérien peut déclencher de gros problèmes diplomatiques. On en a un exemple parfait avec la crise des missiles de Cuba. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment commence cette crise ?
Oui, alors en fait, c'est lié à la prise de pouvoir de Fidel Castro, évidemment. évidemment, 1959, à Cuba. Et Fidel Castro, qui assez vite, face à l'hostilité des États-Unis, va se tourner vers l'Union soviétique. L'Union soviétique qui voit en Cuba une base fantastique en plein cœur de la sphère d'influence américaine. Et donc, les soviétiques ont tout un projet de militarisation de Cuba, d'envoi d'aide militaire à Cuba. Et ils vont notamment y envoyer des rampes de lancement de missiles, des premiers missiles, des hommes. Et c'est un avion U-2 américain qui, justement, va survoler l'île le 14 octobre 1962. Alors, c'est 6 minutes, hein, ça dure, le survol de l'île. Et il va prendre 928 clichés. C'est vraiment des clichés automatiques, hein, qui se succèdent. Et au retour aux États-Unis, ensuite, on développe les clichés. Et là, on imagine l'angoisse terrible parce qu'on découvre qu'à Cuba, il y a des rampes de lancement de missiles nucléaires et qu'on détecte absolument très bien sur les clichés. Des missiles qui peuvent frapper le territoire américain en 12 minutes. Et ils peuvent détruire toutes les métropoles du sud des États-Unis et Washington, qui est à la limite de leur portée.
Bon, là, on comprend qu'effectivement, les Américains ne se sentent pas en sécurité et que la crise commence.
Absolument.
Et de nos jours, parce que finalement, maintenant, la technologie est exceptionnelle. Il y a des satellites à la pointe, il y a des technologies ultra perfectionnées, il y a les hackers. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec cette histoire de ballon chinois? Ça semble un peu baroque, non?
Oui, alors, c'est vrai que quand on regarde ça un peu de l'extérieur, c'est le sentiment que cela donne. Ça donne un peu l'impression d'un emploi, d'un outil un peu rustique, hein, pour faire de la reconnaissance. Alors qu'en fait, c'est assez légitime. D'abord, on a perdu l'habitude de l'utiliser pour l'espionnage, et donc on a beaucoup moins de vigilance sur cet outil. C'est aussi beaucoup plus pratique que les satellites, parce que certes, les satellites permettent d'obtenir des clichés de grande qualité, mais les satellites sont tenus par leur propres contraintes techniques. Ils font des tours, hein, autour de la planète, et donc forcément ils sont prévisibles, on peut prévoir leur orbite, on peut prévoir la direction qu'ils vont prendre, et ils sont surtout obligés de se déplacer. Tandis que les ballons, eux, peuvent être statiques beaucoup plus longtemps. Et donc, ils peuvent prendre des photos de zones et rester longtemps sur ces zones-là.
Donc, ils sont... Parce qu'ils ont des moteurs qui leur permettent de gérer leur mouvement. Ils sont pas juste portés par les vents?
Non, ils peuvent absolument gérer leur mouvement. Ils ont des systèmes de propulsion. Ils peuvent effectivement rester statiques assez longtemps. Ils ont même des autonomies assez importantes, hein. Certains peuvent atteindre jusqu'à 3 mois d'autonomie. Ils sont donc moins prévisibles. Ils sont plus pratiques. Et surtout, ils coûtent beaucoup moins cher. C'est que les ballons espions, ce sont des armes qui coûtent nettement moins cher que des satellites et des lancements de satellites, en fait. Et c'est très à la mode. En fait, il y a beaucoup de sociétés d'équipement militaire qui s'y intéressent et qui développent ce type d'armement. Thales, par exemple, hein, a des projets tout à fait sérieux de ballons d'observation.
On revient aux technologies des années 40 parce que ça coûte moins cher?
C'est un peu ça. Mais alors, après, maintenant, ils sont bardés de technologies à la mode, hein. Ils sont bardés de technologies de pointe, et notamment en termes de caméras et de précision dans les caméras et les prises de vue. Mais c'est vrai qu'en termes, je dirais, de technologie, ça n'a pas beaucoup évolué depuis les premiers ballons espions, quoi. Ça reste la même logique.
Merci beaucoup Stéphane Genet pour cet éclairage sur l'histoire de l'espionnage aérien. Et je rappelle que votre dernier ouvrage, Mais c'est un complot, conspiration, intrigue et coup fourré dans l'histoire, qui a été coécrit avec Benjamin Briot, est paru aux éditions Talendier. Merci Stéphane Genet.
Merci à vous.
Merci à tous nos auditeurs de nous avoir écoutés. Au cœur de l'histoire est un podcast original Europe 1 Studio. À bientôt sur votre plateforme d'écoute favorite.